France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Du rejet des malades au remède miracle, controverse autour du sida. Que n'a-t-on pas dit sur le sida au moment où cette maladie est apparue, la maladie des homosexuels, des héroïnomanes, des haïtiens, des hémophiles? Tant d'incertitudes, tant de discussions face à la douleur, à la souffrance et pour les malades, une quête d'espoir.
À quoi c'est dû et pourquoi les homosexuels? Et bien sûr, c'est la protection des homosexuels d'abord, mais c'est aussi une meilleure connaissance de ce que sont les cancers liés peut-être à certains virus.
On est en droit de penser qu'il y a une voie intéressante à explorer.
On veut absolument me rendre responsable d'une situation qui a été créée uniquement par le pouvoir politique.
Salaire, ce traitement, ça représente quoi?
C'est
125%
de mon salaire
mensuel. Tu te rends compte que je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie?
Moi, dans ma vie, je suis sérieux, c'est tout. Voilà comment ça se résume.
Avec un petit clin d'œil au film 120 battements par minute, ce film de Robin Campillo avec en 2017 le sida qui est remis ici à l'honneur avec ce regard historique. Bonjour Marion Abaléa.
Bonjour.
Marion Abaléa, vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'Institut d'études politiques à l'Université de Strasbourg. Vous êtes l'autrice d'une histoire mondiale du sida. Et avec nous aujourd'hui, Éric Favreau, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter à Libération. Vous êtes l'ancien responsable des questions de santé et vous avez suivi sur le temps long cette épidémie. Marion Abaléa, justement, le temps long, votre histoire mondiale du sida que vous faites paraître aux éditions du CNRS commence en 1981, je le dis parce que c'est écrit sur la couverture. Où en sommes-nous aujourd'hui pour les origines lointaines du sida? Est-ce qu'il y a des informations nouvelles où on arrive à tracer la généalogie du virus?
La généalogie du virus, telle que les scientifiques de sciences dures, entre guillemets, l'ont datée, elle remonte probablement au premier quart du XXe siècle, hein, en Afrique centrale, du côté du Cameroun, avec la probable transmission d'un virus de certaines espèces de singes pour la première fois à l'espèce humaine. Mais il faut attendre en fait les années 60 et 70 pour que vraiment, dans certaines grandes villes de la région, notamment Kinshasa, l'épidémie probablement commence à se diffuser. 81, pourquoi alors? Parce que c'est le moment où, pour la première fois, des scientifiques remarquent une maladie incompréhensible, inconnue, et qui va devenir le début de cette histoire.
Où nous trouvons-nous en 1981 quand ces scientifiques remarquent cette maladie?
Les premiers cas, la première alerte est lancée par un médecin de Los Angeles et très peu temps, quelques semaines plus tard, à New York, où dans les deux cas, ce sont des malades homosexuels qui sont, alors dans le cas de Los Angeles, ce sont des pneumonies étranges qui sont détectées et à New York, des cancers de la peau, ces fameux sarcomes de Kaposi qui vont devenir ensuite une des marques les plus visibles, entre guillemets, de la maladie.
Éric Favreau, c'est vrai qu'il y a dans cette histoire-là ce temps précédent 1981, mais ça c'est le temps des scientifiques, des historiennes, des historiens aussi pour essayer de retrouver l'origine. 1981, c'est une date, mais c'est pas la date exacte où l'on se met à parler du sida, notamment en France, ou encore attendre un petit peu, pas si longtemps que ça en réalité.
Ah oui, tout à fait. Au début des années 80, en France, personne n'en parle, quoi. Et même lorsqu'il y a ce fameux article qui paraît en juin 81, où il y a les premiers cas, non pas du sida, mais de quelque chose d'un peu inattendu qui apparaît, cette maladie, où il y a une consommation d'antibiotiques un peu bizarre, qu'on ne voit pas d'ordinaire. Willy Rosenbaum, qui sera après un des acteurs un petit peu essentiels pour l'isolement du virus, voilà, tombe par hasard sur cet article, et d'ailleurs il raconte toujours que c'est très étonnant qu'il tombe sur cet article qui vient donc du journal des CDC, il le lit, et le matin même, ou l'après-midi même, qu'est-ce qu'il voit? Un steward qui arrive avec une drôle de maladie qui a l'air de correspondre exactement à... Voilà, c'est le point de départ, mais en tout cas, quand on regarde dans la presse, dans les grands journaux, on n'en parle pas du tout, quoi. Il faudra attendre au moins un ou deux ans avant que n'apparaisse cette émergence de quelque chose de nouveau, d'inédit, de bizarre et puis de polémique surtout.
Le CDC, c'est le Centre de contrôle des maladies, Centers of Disease Control. Nous sommes donc aux États-Unis avec, on peut le dire, Marion Abaléa, une surprise complète et une méconnaissance. Alors, les mots utilisés sont des mots de maladies que l'on connaît déjà pour essayer de saisir ce qui se passe à ce moment-là.
Oui, en fait, ce qu'on repère, ce sont ce qu'on appellera les maladies et les infections opportunistes, c'est-à-dire le VIH détruisant le système immunitaire des patients, il développe des maladies face auxquelles, normalement, on combat facilement, et notamment parce qu'il s'agit d'hommes jeunes en bonne santé, qui, normalement, ne devraient pas du tout avoir ce type d'infection. Donc, ce qu'on repère, ce sont ces infections, et puis, très vite, on s'aperçoit que si ces jeunes hommes, notamment, développent ces infections, c'est parce que leur système immunitaire est complètement anéanti. D'où les premiers noms du sida qui vont être ceux de syndrome d'immunodéficience. Comme on les repère surtout chez les jeunes homosexuels masculins aux États-Unis, on parlera de GRID pour Gay-Related Immunodeficiency, donc une immunodéficience qui touche les gays.
Éric Favreau, vous êtes entré au quotidien Libération en 1981. Est-ce que vous vous souvenez des conférences de rédaction au moment où l'on commence à évoquer? Alors, qu'est-ce que l'on évoque justement? C'est toute la question. Une maladie étrange, de loin, faut-il en parler? Parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est.
Alors, moi, formellement, pour raconter ma petite histoire, ce n'est qu'en 1986 que je commence à travailler sur les questions de santé et en particulier du sida. Donc entre 80 et 86, j'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai des souvenirs sur le fait que il y a eu des polémiques assez fortes et assez méchantes parce que il y a eu à une ou deux reprises l'expression de cancer gay qui était apparue au début des années 80 pour essayer de décrire. Mais soyons honnêtes, au début des années 80, tout le monde s'en moquait du sida. On n'en parlait pas. C'était pas du tout ça n'avait pas du tout atterri dans la sphère publique. Ce n'est qu'à partir d'ailleurs de fête de 86 et d'une certaine façon avec l'inénarrable Jean-Marie Le Pen qui lance l'expression des sidatoriums, etc., qui va, et l'arrivée d'une femme ministre, Michèle Barzac, qui va donner un relief très fort, très, je vais dire médiatique, non, mais un visage à cette lutte. Mais au début des années 80, y compris dans Libération, on n'en parlait pas, et on en parlait. Et c'est d'ailleurs assez troublant, parce que à l'époque, dans le journal, il y avait des gens qui étaient atteints, qui allaient en mourir, mais on ne le savait pas du tout.
Vous le saviez pas, nous sommes donc en 1981, au mois de juin précisément, quand cet article apparaît, mais aux États-Unis, tout doucement, les gens commencent à en parler, et notamment la médecine s'intéresse à la question. C'est le cas dans le journal télévisé de 20h sur la deuxième chaîne de la télévision française.
Peut-on soigner ce cancer?
Je ne dispose pas de thérapeutique qui soit parfaitement efficace, mais il est important que le centre ou le groupe de médecins qui vient de se constituer puisse recueillir des données qui sont importantes sur le plan de l'épidémiologie et de la prévention, et qui puissent recueillir l'ensemble des données qui peuvent contribuer au progrès. Il s'agit de savoir à quoi c'est dû et pourquoi les homosexuels, et bien sûr, c'est la protection des homosexuels d'abord, mais c'est aussi une meilleure connaissance de ce que sont les cancers liés peut-être à certains virus. Alors, ce que je voudrais dire qui est important, c'est d'insister sur un problème préventif. Les poppers, j'emploie le mot, les poppers, ce sont des substances, le nitrite d'amine en l'occurrence, qui sont des vasodilatateurs et qui contribuent à la qualité et à la quantité des rapports sexuels. On n'est pas du tout certain, il n'est pas prouvé qu'ils aient un rôle direct dans l'apparition de ces maladies. Mais dans le doute, il faut s'abstenir. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement recommander aux gens qui connaissent ce genre de substances et qui en utilisent, qui les utilisent, de s'en abstenir désormais et prennent un risque indiscutable.
Nous étions au mois de mars 1982, donc un grand journal télévisé. C'est le professeur Gérard Semaux qui s'exprime. Il vient de l'hôpital Claude Bernard à Paris. Marion Abaléa, dans ce que nous venons d'entendre ici, il y a l'évocation à la fois du cancer et à la fois du poppers, utilisé dans la communauté homosexuelle, et donc le lien est fait. Cancer homosexuel, cancer gay.
Oui, bien sûr, ça fait déjà quelques mois, hein, aux États-Unis notamment, qu'on dénonce cancer gay, notamment du fait qu'effectivement, des cancers de la peau, ces fameux sarcomes de Kaposi, se développent chez les premiers malades identifiés du sida, qui pour beaucoup sont des homosexuels masculins des grandes métropoles américaines. Et puis, effectivement, on est en train de rechercher quel peut être la cause de cette nouvelle maladie étrange, et le premier réflexe, à la fois sans doute porté par des clichés, des stéréotypes sur la communauté gay, et puis aussi par l'histoire de la médecine récente qui a mis en avant et mis en évidence des nouvelles maladies qui étaient liées à des facteurs environnementaux, on va rechercher autour de ce qu'on appelle dans les médias à l'époque le mode de vie homosexuel, les causes de ce qui pourrait être cette nouvelle maladie, et notamment la fameuse thèse du Popper, ce qu'on entend ici, ces stimulants sexuels utilisés par une partie de la communauté gay et qui est pointé du doigt dans un premier temps.
Avec Éric Favreau, le contexte, il faut rappeler qu'en France, l'homosexualité a été dépénalisée juste là, quelques années plus tôt. Alors, vous allez me le corriger.
Oui. Parce que c'était toujours quelque chose que notre ami Daniel Lefer, qui allait fonder AIDE, disait toujours, non, c'est pas du tout la gauche qui a dépénalisé l'homosexualité, elle était totalement dépénalisée, elle l'a remis dans le droit commun pour une histoire d'âge.
La majorité sexuelle.
Non, mais c'est vrai sur le... Mais je défends un peu la presse, il y avait quand même des vraies interrogations, on était dans une vraie inconnue au début des années 80, et puis quand même, la communauté gay... Elle n'était pas absolument parfaite à l'époque. Hein. Quand est arrivé les premiers cas, ils ont totalement nié. Hein. Il y avait dans le journal Guépier, qui était le seul journal un petit peu important de la communauté, hein, des personnes qui disaient « Mais attendez, il est mille fois plus dangereux de traverser la route à un feu rouge que d'avoir la moindre relation sexuelle. » Donc il y avait un vrai débat qui un peu s'est cristallisé. Il faut toujours qu'il y ait éventuellement un mauvais objet. Il y a eu les Poppers, il y a eu toute une série d'hypothèses. Mais ce qui reste quand même fascinant et extraordinaire, c'est la rapidité quand même avec laquelle on a été d'abord isolé, puis voilà, compris les mécanismes de contamination.
Oui, parce que dans la chronologie, le moment où le virus est identifié, on est en 1985, là on a déjà 83.
Oui.
Et dès 83, il y a la possibilité de savoir quel était ce virus. Et donc très vite, 85, c'est les tests, c'est ça. Voilà, en 1985, ce sont les tests. Donc ça veut dire que très rapidement, dans cette histoire-là, il y a la possibilité d'en savoir plus. D'ailleurs, au moment, Marion Abaléa, d'écrire une histoire mondiale du sida, vous êtes sur cette chronologie très fine, parce qu'on l'entend bien, hein, ça se passe en années, voire en mois. Mais dans le même temps... Les temps sont différents. Il y a le temps de la médecine, il y a le temps des médias, il y a le temps de la prise de conscience. Et tout ça se chevauche, mais pas du tout à la même vitesse.
Oui, exactement. Et je rajouterais même un quatrième temps. Il y a le temps de la maladie, qui est une des grandes spécificités de cette infection au VIH, c'est-à-dire plusieurs années, voire parfois une dizaine d'années ou plus, entre le temps de la contamination et le temps du déclenchement de la maladie. Et effectivement, ça fait des chronologies, des temporalités qui se superposent et qui expliquent certaines dissonances de réponse entre les acteurs, certains conflits aussi. Et ce temps de la maladie, il est décisif parce que c'est aussi parce que vous êtes contaminé, mais en relativement bonne santé pendant plusieurs années, vous avez le temps de lutter, de militer. Je le dis souvent à mes étudiants, si on meurt du sida trois jours après la contamination comme du choléra, on n'a pas le temps de mettre en place tout le mouvement social et politique qui s'est développé autour de la maladie, évidemment.
Oui, parce qu'il y a cette maladie qui est une maladie complexe. Quelqu'un peut être atteint par le virus du VIH-sida sans le savoir, et cela peut durer longtemps avant que les maladies réellement se déclenchent. Dans cette période-là, Éric Favreau, vous l'avez dit avec beaucoup de justesse, la presse qui essaie de comprendre, les journalistes et puis tout le monde, hein, citoyens, citoyennes, tout le monde essaie de comprendre sans disposer des armes d'analyse. Mais même les médecins sont en cours de recherche.
On est à un moment aussi très particulier de la médecine qui sort après la Seconde Guerre mondiale, qui devient une médecine qui marche, qui fonctionne, qui est presque une médecine, j'allais dire, qui allait devenir triomphante. Et pof, arrive au début des années 80 quelque chose qui échappe à tout le monde. Et surtout qui échappe au regard scientifique. Et cet inconnu déstabilise tout le monde et déstabilise en particulier le milieu médical. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a le retour éventuel des maladies infectieuses alors qu'on pensait que l'arrivée des antibiotiques avait terminé et clos ce chapitre. Bref, on est dans une véritable inconnue. Et puis, il y a aussi quand même cette chose quand même très impressionnante que ce virus apparaît en pleine arrivée de la mondialisation, quoi, quelque chose d'absolument inédit, de transport. On le voit même lorsque vous racontiez un peu le développement de ce virus au Congo belge, devenu la République Centrafricaine. C'est lié aussi au transport.
Le Zaïre.
Le Zaïre maintenant.
Voilà. Le Zaïre et aujourd'hui la République démocratique du Congo. Voilà.
C'est lié aussi. C'est une maladie. Qu'elle est, comment dire, une maladie moderne, une maladie inédite et déroutante. Et comme toute maladie moderne, elle s'inscrit à des moments de rupture, quoi.
Oui, pour compléter ce que disait Éric Favreau, il faut se souvenir qu'en 1980, l'OMS a déclaré la variole éradiquée, première maladie infectieuse éradiquée de la planète, et qui était censée être la première d'une longue liste à venir, d'une victoire sur les maladies infectieuses. Et c'est quand même frappant que, à peine 6 mois après, on a une nouvelle maladie infectieuse qui apparaît et qui va mettre les certitudes de la science, et notamment de la science occidentale, en échec pendant longtemps.
Et puis, il y a quelques figures, vous l'avez dit, Éric Favreau, il y a Jean-Marie Le Pen qui évoque les sidaïres, enfin, tous ces mots-là absolument immondes utilisés à ce moment-là. Et puis, il y a la figure de Michel Foucault, le philosophe qui meurt en 1984, emporté par le sida. C'est-à-dire qu'il y a besoin, mais pour le média lui-même, de choses à raconter et dire les médecins cherchent mais ne trouvent pas, ne savent pas, puis les débats sont compliqués, c'est beaucoup plus complexe que de dire, voilà, il se passe quelque chose ici, soit la polémique politique, soit mais l'effarement quand on apprend la disparition d'un de nos plus grands penseurs intellectuels.
D'ailleurs, oui. Et d'ailleurs, c'est là aussi la situation, non pas ambiguë, mais très compliquée, autour de la mort de Michel Foucault. Puisque, donc, Michel Foucault meurt du sida, mais son plus proche compagnon, Daniel Defer, ignore son état. Et voilà. Alors que, et d'une certaine façon, il reste toujours un mystère pour savoir si Michel Foucault savait ou pas s'il était atteint, parce que, bon, c'est pour rentrer dans quelques détails, la plupart du temps, à l'époque, on pensait que ça s'exprimait surtout par une maladie de peau, ce qu'on appelait le sarcome de Kaposi, c'était très visible. Et comme il ne l'avait pas, il s'était dit à un moment donné, ben non, je ne l'ai pas. Et au point même que on a eu, c'était un des, j'allais dire, des plus gros malentendus, voire des plus grosses erreurs à Libération, le jour de la mort de Michel Foucault, le lendemain, il y a eu un petit billet qui a été écrit par quelqu'un de très respectable dans le journal pour dire, mais attendez, il y a une méchante rumeur qui court disant que Michel Foucault était mort du sida, comme si un philosophe ne pouvait mourir que d'une maladie honteuse. Vous voyez, même, voilà, 84, juin 84, voilà, toute l'ambiguïté était là.
Éric Favreau, vous êtes l'auteur de Nos années sida, 25 ans de guerres intimes, avec une postface de Daniel Defer, justement, c'est publié à La Découverte, parce que le mot intime ici est très important, et vous l'avez bien dit que dans cet univers rédactionnel à Libération, un quotidien qui s'intéresse à toutes ces évolutions de la société, l'intime était très présent. C'est pas simplement ici raconter des événements qui peuvent se passer dans la société, c'est aussi raconter sa propre histoire.
Oui, il y a une formule que j'aime beaucoup pour parler autour du sida, c'est virus privé et maladie publique. Il y a quelque chose de très étonnant dans, et c'est pour ça que l'impact a été très fort au-delà de la multitude de drames que ça a constitué. C'était ce mélange de quelque chose d'extrêmement personnel, puisque ça touchait quand même aux liens, aux relations sexuelles, et voilà. Il y avait donc le risque de contamination, donc le rapport à l'autre, la communication, les déplacements, les voyages. Et donc, ce mélange des deux nous faisait entrer dans quelque chose d'inconnu et d'aussi mystérieux. Et au final, faire déplacer un peu le cursus entre ce qui était de l'ordre du privé, de l'intime, et de ce qui est de l'ordre du public. On l'a bien vu, puisque après, peut-être qu'on en parlera, mais c'est quand même le sida qui a permis l'ouverture du Pax, puis après le mariage pour tous, etc. Donc ce curseur s'est déplacé d'une certaine façon grâce à ce virus, et plus exactement grâce aux gens, aux militants qui se sont battus pour faire exprimer cette chose très particulière qui était cette maladie qui vous rongeait de l'intérieur, mais qui avait des aspects très extérieurs.
Marion Abaléa, qu'en est-il du côté de la science, des médecins? Comment se construit la recherche pour, alors déjà, essayer de comprendre ce qu'est ce virus? Vous nous l'avez dit, 1983, c'est le virus identifié. 1985, les tests. Il y a des polémiques à ce moment-là. C'est-à-dire, oh là là, vous me faites oui de la tête, beaucoup.
Oui, bien sûr. Bon, la grande controverse de l'époque, c'est la controverse franco-américaine entre les équipes de l'Institut Pasteur de Paris, dirigée notamment par le professeur Montagnier, et celle de Washington, ou plus exactement de Bethesda, dans la banlieue de Washington, le National Institute for Health, dirigé par Robert Gallo, autour de la paternité de la découverte. L'équipe de l'Institut Pasteur a identifié ce qui s'avérera être un rétrovirus, donc une forme particulière de virus, dès janvier 83, dans des prélèvements faits par Willy Rosenbaum chez des patients supposé atteint, on n'avait pas de certitude évidemment, mais peine un petit peu à démontrer le lien réel et effectif et causal, en tout cas, entre le virus qu'ils ont identifié et la maladie. C'est sur cette difficulté que l'équipe américaine, un an plus tard, va surmonter, et ce qui permettra, notamment dans une mise en scène particulièrement pensée et qui a fait beaucoup débat en 1984 à la ministre américaine de la Santé, de tenir une conférence de presse avec Robert Gallo derrière elle, célébrant une nouvelle victoire de la science américaine dans la découverte du virus, lequel virus de fait avait été découvert un an plus tôt à Paris.
Par les Français, avec une polémique qui ne dure pas qu'un petit moment, parce que ce que vous évoquez là a des conséquences après, et il ne cesse d'en parler, Luc Montagnier, en 1991.
Il ne faut pas exagérer l'importance de cette affaire, mais enfin, elle est importante pour l'histoire de la science et puis aussi effectivement pour cette discussion qui n'en finit pas sur le rôle des deux laboratoires français et américains dans cette affaire. Pour nous, c'est un peu un épilogue, si vous voulez, c'est un point final. Les analyses qui ont été faites récemment, notamment par mon collègue Simon Wenopson, ont montré qu'en fait, effectivement, on avait envoyé deux virus à Robert Gallo en septembre 83, et que l'un de ces virus est tout à fait identique à celui qu'il a décrit quelques mois plus tard. Donc je pense que pour nous, l'affaire est classée, enfin elle est close. Maintenant, il appartient aux Américains de répondre.
Oui, enfin en 1991, l'affaire serait close, dit le professeur Montagnier, elle n'est pas close. Pourquoi cette polémique? C'est une question de fierté nationale aussi, de fierté de laboratoire, peut-être aussi l'idée de financement derrière, hein, quand on arrive à prouver que l'on a été les premiers, bah, c'est attractif aussi pour les investisseurs.
C'est tout cela. Du point de vue financier, c'est très clair. L'équipe qui a découvert le virus est celui qui touchera les royalties associées notamment aux tests de dépistage, lesquels sont en vente depuis 85. Et potentiellement, on croit encore à un vaccin à court terme, celui qui touchera les royalties sur les vaccins, puisque tests comme vaccins sont élaborés à partir de la souche initiale découverte. Donc il y a des enjeux financiers énormes. Mais il n'y a pas que ça. Clairement, moi j'ai travaillé notamment par exemple dans les archives de l'Élysée qui montrent dès 84 des notes des conseillers et conseillères du président Mitterrand qui remontent jusqu'à François Mitterrand et qui soulignent aussi sans doute avec une forme d'anti-américanisme assez traditionnelle chez les socialistes de l'époque qu'il faut défendre l'honneur français, mener une campagne, mobiliser Roland Dumas au Quai d'Orsay, les prix Nobel français de médecine pour défendre la cause nationale au-delà même des enjeux financiers qui sont très très importants et qui amènent même l'Institut Pasteur à porter plainte devant la justice américaine pour essayer de défendre ses droits.
Ah oui, parce que ça va jusque-là quand même, cette histoire, cette polémique. C'est toujours d'ailleurs très impressionnant hein, quand on se plonge au plus près à l'intime, comme vous évoquiez tout à l'heure, et puis imaginez que ces controverses sont sur des enjeux tellement plus forts, parce que nous sommes ici au milieu des années 1980. L'idée que le sida puisse être une épidémie qui va toucher l'ensemble de la population est déjà présente auprès en tout cas des scientifiques ou des dirigeants politiques.
C'est une crainte, je crois, peut-être Éric Favreau pourra en témoigner aussi. C'est aussi un fantasme qui alimente les discriminations. L'idée du sida hétérosexuel qui gagnerait ce qu'on appelle à l'époque la population générale par opposition aux groupes qui sont les plus touchés est une espèce de fantasme qui va s'emparer, et de paranoïa aussi, qui va s'emparer d'une partie de la population et qui va justifier des discriminations et des traitements extrêmement sévère, des communautés qui sont vues comme ceux qui risquent de faire passer le sida d'un bastion ou d'un vivier à un autre. Par exemple, les héroïnomanes qui peuvent contracter le sida par voie intraveineuse, puis le transmettre à leurs partenaires sexuels, et notamment à des femmes dans des relations sexuelles, et ensuite faire basculer dans une autre dimension. Donc oui, on a ces craintes-là. Dans les pays, il faut le dire quand même, dans les pays occidentaux, en Europe, ou en Amérique du Nord ou dans d'autres pays, elle s'est relativement peu concrétisée, même si évidemment le sida et le VIH ont touché aussi des personnes hors de ce qu'on appelait à l'époque, avec beaucoup, beaucoup de guillemets, les groupes à risque. La maladie va rester quand même largement dominante et surreprésentée dans des groupes particuliers, à la différence de ce qui se passe en Afrique, où là, on a une épidémie généralisée à l'ensemble de la population.
Et à ce moment-là, personne regarde du côté de l'Afrique. Éric Favreau, dans le moment du milieu des années 1980, avec ces polémiques que nous évoquons, et surtout le risque ou la crainte que toute la population soit concernée. Vous avez vu tout cela, ce sont les années SIDA que vous racontez. Ce moment où, d'un tout petit groupe, enfin pas si petit que ça d'ailleurs, on se dit, mais attention, est-ce que moi, je risque d'être contaminé? D'ailleurs, c'est quelque chose qui apparaissait partout dans les médias. Les gens se posaient des questions.
Ah oui, les gens se posaient des questions et ils avaient raison de se poser des questions. Parce qu'au début des années 80, il y avait des interrogations très fortes. En particulier, on a perdu un peu cette expression, mais il y avait ce qu'on appelait les porteurs sains. Ceux qui étaient, voilà, qui étaient positifs au premier test et on se demandait ce qui allait se passer. Et parce que l'histoire des maladies infectieuses montre que c'est pas parce qu'on est porteur d'un virus ou d'un quelconque microbe qu'on va devenir malade. Donc il y avait cette véritable interrogation. Et ce n'est que vers les années assez tardivement, c'est-à-dire vers 84-85, qu'on s'est rendu compte. Et là, ça a été une grande, grande inquiétude. C'est quand on a vu que la quasi-totalité des porteurs sains allaient tomber malade. Ça a été un énorme bascule. Là, il y a eu quelques mois. On en parlait un petit peu auparavant avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste Brunet, qui était l'épidémiologiste un petit peu du groupe initial en France, où il vous raconte comment il a été saisi à un moment donné, où il s'est rendu compte du risque, voire de la terreur qui allait éventuellement se produire, puisque tous ceux qui portaient le virus allaient tomber malades.
Oui, et puis pour les gens qui se disent, moi je ne suis pas homosexuel, ou je ne couche pas avec quelqu'un du même sexe, je ne risque rien, mais vous vous souvenez, et les moustiques? Parce que ça apparaissait ça dans les conversations. Est-ce que je peux être contaminé par un moustique qui aurait piqué quelqu'un de malade?
Il y a eu les moustiques, il y a eu le baiser, il y a eu des multiples interrogations. Mais de fait, est-ce que c'est parce que les années ont passé? C'était finalement un peu légitime de s'interroger. Voilà, il y avait le monde médical, le monde de la recherche était quand même très très interrogatif. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir un tout petit peu en arrière, parce que c'est aussi très très intéressant de voir pourquoi ce sont les Français entre guillemets qui ont isolé le virus et pas les Américains. Les Américains étaient beaucoup plus forts. Robert Gallo, c'était une star et quelqu'un d'extrêmement brillant, mille fois plus brillant qu'un Luc Montagnier, qui suffit de l'entendre parler en anglais pour se dire qu'on a quelques hésitations sur ses grandes compétences. Et pourtant, il y avait quelque chose de beaucoup plus original avec cette équipe française où se mêlaient des gens d'horizons variés, des gens qui étaient quand même tous un petit peu en marche. Parce que le milieu officiel de la recherche, cette maladie des PD et des toxicos, ils n'ont pas voulu s'en occuper. Et si le seul rétrovirologue qui s'en est occupé, à savoir Luc Montagnier, c'est parce qu'il n'avait pas grand chose à faire. Et de l'autre côté, Robert Gallo, lui, avait une idée fixe. J'ai trouvé un premier rétrovirus, je suis sûr que celui du sida, c'est le même. Donc, il y a cette idée très, très, je trouve très agréable de voir que la science c'est pas un côté amateur, mais un côté, une curiosité et un côté aussi pluridisciplinaire. C'est ça qui a marché. Et puis, pas d'idée arrêtée. Donc, moins on a des idées fixes, plus voilà. Et ça aboutit à ce que quelques quelques originaux français ont trouvé ce virus face à une machine très impressionnante et très séduisante qui était la machine Gallo.
Marion Abaléa, aujourd'hui, après l'épidémie de Covid, le mot rétrovirus est entré dans le vocabulaire sans souci. Mais là, dans les années 1980, rétrovirus, tout ça, on ne comprend pas trop ce que c'est. Enfin, les médecins comprennent. Personnellement, moi, encore aujourd'hui, j'aurais du mal à préciser ce qu'est un rétrovirus et comment ça fonctionne. Mais dans ce qui vient d'être dit, c'est vraiment passionnant de saisir comment, en France, tout le monde ne s'occupe pas de cette maladie-là. C'est-à-dire que on pourrait imaginer que nos plus grands chercheurs, nos prix Nobel, tout le monde se précipite en disant « attention ». Non, ce n'est pas encore la priorité.
Non. D'abord, il faut dire que l'hypothèse virale elle-même a été longue à se dessiner. C'est-à-dire que l'idée que cette maladie soit causée par un virus, elle n'est pas quelque chose qui vient d'emblée en tête. On parle d'abord de facteurs environnementaux, notamment. Et puis, effectivement, il va se trouver que c'est un rétrovirus qui est détecté par l'équipe de l'Institut Pasteur en janvier 83, ce dont on se rend compte assez vite parce que, pour faire court, il y a un enzyme spécifique au rétrovirus qui est détecté et donc on sait avec certitude. Là où la concordance des temps est quand même très intéressante, c'est que la recherche sur les rétrovirus a explosé dans les années 70. Et c'est aussi pour ça que la découverte a été aussi rapide. Et c'est pour ça que Gallo était avait toutes les cartes alignées pour découvrir ce rétrovirus. C'était lui qui, effectivement, avait identifié le premier rétrovirus qui touchait l'espèce humaine quelques années plus tard. Et il était persuadé qu'il allait trouver le même ou un cousin très proche qu'il a continué à chercher pendant des années, alors qu'il s'agissait d'une autre forme. Mais c'est intéressant de voir que 10 ans plus tôt, on n'aurait pas eu les mêmes rapidités dans la recherche et que tout ce qui s'était passé dans les années 70, finalement, converge à une découverte rapide de ce virus au milieu des années 80.
Dans la rivalité entre la France et les États-Unis pour savoir qui a été le premier, il y a le politique qui s'en mêle, vous nous l'avez dit. Le politique qui s'en mêle peut-être, alors pour activer un petit peu les dissensions, le politique qui s'en mêle aussi pour apaiser les choses.
Oui, il est notable que je parlais de la plainte déposée par l'Institut Pasteur en justice, devant la justice américaine. Elle n'a jamais abouti devant les tribunaux puisque le contentieux a été réglé dans un premier temps, puisqu'il va ressurgir après, mais il a été réglé dans un premier temps par un accord signé en 1987 au plus haut niveau de l'État, puisque c'est Jacques Chirac, Premier ministre, qui va signer à la Maison-Blanche avec Ronald Reagan un accord qui porte notamment sur la répartition des fameuses royalties des tests de dépistage, le trésor de guerre à se répartir dans une espèce de compromis un peu bancal qui d'ailleurs va être discuté quelques années plus tard.
Et dans cette histoire-là, bien sûr, nous évoquons des noms de scientifiques qui cherchent, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a de la recherche et parfois quelques annonces.
Il s'agit de beaucoup de choses parce que c'est la première fois depuis 2 ans et demi qu'on a essayé 30 ou 40 drogues dans cette maladie, qu'on observe des résultats biologiques d'une très grande ampleur. Sur un tout petit nombre de maladies, il y en a 2 pour l'instant, le troisième sera évalué demain et les 2 autres la semaine prochaine. Mais je le répète, lorsque des centaines de sujets ont été étudiés, suivis, traités, qu'on n'a jamais vu le moindre résultat et que 2 jours après l'administration d'une nouvelle drogue, on observe une extraordinaire réponse immunologique avec une certaine amélioration clinique, on est en droit de penser qu'il y a une voie intéressante à explorer. Mais ne me faites pas dire qu'il s'agit du traitement du sida, ça ce n'est pas du tout le cas. Cela sera peut-être, mais nous ne le saurons certainement pas avant 6 mois ou 1 an.
De quel médicament s'agit-il ?
Il s'agit d'une drogue qui s'appelle la cyclosporine A, qui est un médicament suisse, et qui, en quelque sorte, refroidit le système immunitaire et ainsi empêche la multiplication du virus du sida.
En 1985, le docteur Philippe Even qui nous parle de la cyclosporine A. Alors, Marion Abaléa, l'annonce 1985, et possiblement un médicament peut guérir du sida.
Oui, alors annonce pour le moins prématurée, hein, et dont à la fois les scientifiques et le ministère de la Santé, qui étaient partie prenante de la conférence de presse qui avait été organisée à cette occasion et à laquelle participait la ministre française de la Santé, donc donnant une caution politique à nouveau à ce remède prétendu de la cyclosporine, montre à la fois la volonté de trouver un espèce de remède miracle qu'on retrouve dans beaucoup de pays, montre une précipitation dans l'annonce, on l'entend dans l'extrait, hein, 2 jours, 2 patients. Autant dire qu'en termes de recul pour une étude scientifique, c'est un peu léger. Et de fait, les patients en question, de manière tragique, sont décédés quelques jours après l'annonce de ce prétendu remède miracle, qui en plus était un petit peu surprenant du point de vue de l'idée même de les administrer, puisque la cyclosporine est un immunosuppresseur. Donc on administrait à des patients immunodéprimés quelque chose qui affaiblissait encore plus leur système immunitaire. Alors il se trouve que c'est pas si idiot que ça, loin de là, et qu'aujourd'hui, une partie de la recherche va dans ce sens-là. Mais ça témoigne, l'empressement de faire cette annonce d'une part et le soutien politique témoigne du contexte de rivalité. On ne veut pas se faire doubler une deuxième fois, en gros, pour le dire clairement.
Toute ressemblance avec des personnages, des événements autres serait non pas du tout purement fortuite. Ça nous rappelle beaucoup de choses. Éric Favreau, journaliste à Libération, vous couvrez l'épidémie du sida. Mais bien sûr, vous êtes en quête de toute annonce du monde médical sur les avancées. Mais pas de recul, c'est difficile quand même d'analyser ce que dit un médecin, un professeur.
Oui, non. Là, sur le coup de la cyclosporine et de Philippe Even, rendons parfois grâce aux médias, voire aux journaux, parce que là, la quasi-totalité des médias, en tout cas les médias type Le Monde, Libération, Le Figaro, tout ça, dès le lendemain, étaient absolument assassins sur cette conférence de presse absolument grotesque, sur ces annonces totalement délirantes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait cette chance que le monde médical était très, très ouvert. Donc les gens parlaient, tout le monde se disait, mais attendez, c'est quoi cette annonce avec 2 patients qui vont bientôt mourir? Mais il y avait quelque chose de très particulier, c'était les personnages. Il ne faut pas faire une fixette sur Philippe Even, mais Philippe Even n'était pas n'importe qui. Il a été doyen de Necker. Necker, la faculté la plus prétentieuse de médecine de France, la plus brillante, mais voilà, très proche de la gauche. Et c'est cet homme-là qui était... Simone Veil disait toujours que son gros problème, c'était les doyens. Et c'était lui qui avait le pouvoir. Voilà. Et cet homme-là, qui était quand même, avait un passé très, très brillant, qui se lançait dans une opération aussi déroutante, aussi discordante, posait problème. Ça montrait aussi comment, parfois, les gens pouvaient perdre la tête. Et d'ailleurs, ce qui était assez étonnant, c'est que ce même Philippe Even continue d'y croire à ce médicament, alors que la totalité des patients sont malheureusement morts, et que cette annonce était totalement... Vraiment totalement démesuré, mais il y en a eu quelques autres, hein, mais bon, ça a suivi un peu l'histoire clinique de cette maladie.
Marion Abaléa, dans le moment de la recherche scientifique, nous avons aussi la recherche des origines. Nous en avons parlé tout à l'heure, mais avec le regard de l'historienne. À ce moment-là, il y a l'idée que, bon... groupe homosexuel, très bien, mais pas seulement. Vous avez parlé d'héroïnomane, d'haïtien, une lecture aussi très particulière de tout cela, c'est-à-dire que la lecture sociale que l'on peut faire des groupes désignés nous conduit encore à des formes de marginalité.
Oui, il y a un historien américain qui s'appelle Gerald Oppenheimer qui a beaucoup insisté sur le lien entre la recherche épidémiologique et la manière dont le sida a été caractérisé socialement et politiquement. Et les points de départ de tout ça, c'est vraiment de l'épidémiologie. La plus classique du terme, c'est dans quel groupe on repère la maladie de manière surreprésentée, notamment dans les États-Unis du début des années 80. Et ce qui est intéressant, c'est que ces groupes, ce sont d'abord... les homosexuels. Ensuite, très tôt, effectivement, la communauté haïtienne ou haïtienne-américaine dans les villes de Miami, de New York, notamment aux États-Unis, où on repère des cas plus nombreux, nettement plus nombreux proportionnellement que dans le reste de la population. Et puis, les héroïnomanes, notamment. Et cette qualification qui va être purement épidémiologique au départ et qui vise à alerter notamment les médecins généralistes en disant, cette nouvelle maladie qu'on connaît pas trop, elle est surreprésentée chez ces groupes. Donc, si vous avez des patients qui développent des symptômes qui peuvent s'y rattacher, pensez-y. Elle va être reprise, cette qualification, de manière extrêmement médiatique, politique, sociale, comme les groupes responsables, les groupes d'origine. Alors, on a déjà parlé des homosexuels. Dans le cas d'Haïti, ça va être dévastateur pour l'île d'Haïti, hein, dont les principales ressources étaient évidemment le tourisme, et dont le tourisme est divisé par 10 en 2 ans entre 1981 et 1983. Plus personne ne veut aller dans l'île du sida. Comme on le dit à l'époque, avec cette idée qui s'est développée que Haïti aurait pu être le berceau du sida. On sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'était pas le cas, hein, que l'origine de la transmission de la barrière des espèces, c'est plutôt l'Afrique équatoriale. Mais des stigmatisations, des discriminations extrêmement violentes contre les communautés haïtiennes se développent en Amérique du Nord, dans les grandes villes, Montréal, New York, et en Europe, y compris à Paris, où la communauté se mobilise contre cela. Et puis un peu plus tard, lorsque l'origine africaine s'affirme, là aussi, elle va être l'enjeu de controverses à la fois politiques, sociales et de discrimination pour les Africains, notamment dans les pays occidentaux, qui sont vus comme éventuellement ceux qui ont amené le virus.
À quel moment, d'ailleurs, l'épidémie devient mondiale ? Alors, non pas au sens où, par la maladie, de plus en plus de gens sont contaminés, mais où l'intérêt porté sur cette maladie devient mondial ?
C'est compliqué. Les premières recherches qui sont développées sur l'hypothèse africaine et donc qui vont amener à constater l'existence du virus en Afrique centrale, elles remontent assez tôt, en 1983-85, notamment un grand projet belgeo-américano-zaïrois à Kinshasa qui s'appelait le projet SIDA, dirigé par quelqu'un qui s'appelle Jonathan Mann, qui va être le futur directeur du programme SIDA de l'OMS. Et quand il débarque à Kinshasa en 83-84, il visite des hôpitaux et il voit des dizaines et des dizaines de patients qui présentent des symptômes qui peuvent être ceux de la maladie. Et donc, ça déclenche d'autres études épidémiologiques sur place. Ceci dit, on se heurte à la fois à une faiblesse, un faible intérêt de la recherche globalement occidentale pour ces terrains et à une réticence des autorités politiques locales, par exemple le président Mobutu au Zaïre, qui refuse de reconnaître l'existence du sida sur son territoire. L'Ouganda de Museveni, qui est toujours en place aujourd'hui, est le premier pays en 86 en Afrique à reconnaître l'existence d'une épidémie importante et d'un problème de santé publique sur le sol africain à l'OMS, donc 1986.
Et puis dans le même temps, il y a la mobilisation. Et ça, Éric Favreau, elle est au cœur de toute notre histoire. Comment des gens se mobilisent, prennent conscience et veulent éveiller les consciences.
Oui, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel ce qui s'est passé, mais dont le point de départ était l'échec de la médecine. Voilà, il se passait quelque chose, des malades jeunes mouraient, c'était insupportable. Et il n'y avait pas de réponse. Donc il s'est passé aussi l'autre chose qui était très compliquée, c'était les histoires de contamination, d'exclusion, et donc l'apparition du malade comme acteur d'une réponse, que ça soit sociale mais aussi clinique, allait prendre de plus en plus d'importance. Et avec cette fameuse formule qui a été lancé par Daniel Defer, que le malade allait être un réformateur social. C'est-à-dire qu'on se trouvait dans une situation très confuse, très compliquée, où il n'y avait pas de réponse, et la seule possibilité, c'était une certaine solidarité entre les différentes personnes touchées, avec cette chose quand même qui était très extraordinaire dans les toutes premières années de l'épidémie, qui se retrouvait d'ailleurs aussi en Afrique, c'est-à-dire que les personnes les moins touchées allaient aider les personnes les plus touchées. Ce fameux binôme, il s'est construit ainsi, une sorte de modèle, une modèle de solidarité qui après s'est enrichi avec une modèle de connaissance parce qu'on était face à quelque chose où c'était un certain vide et le milieu médical n'avait pas de réponse et le milieu médical recherchait des informations. Donc peu à peu est apparu les toutes premières associations. Alors c'est vrai que rétrospectivement, je pensais que c'était absolument inédit. Mais en fait, je voyais que dans d'autres événements, par exemple chez les handicapés, juste après la guerre, il y a eu aussi des mouvements des premiers intéressés. Il n'empêche que là, sur la maladie, s'est passé quelque chose d'absolument étonnant. Les malades ont pris la parole, non, simplement parce qu'ils voulaient vivre.
Oui, mais simplement pour cela. Et face à l'angoisse de la maladie, la perte de ses proches, amoureux, amoureuses, enfin, l'incertitude de l'avenir, bien sûr, ces organisations, Marion Abaléa, sont là, vraiment, la structure de cette histoire. Il y a la science, il y a tout ça, mais qu'il s'agisse d'aide, d'ACT UP, on a vraiment des mouvements très forts et qui ont fait bouger les choses.
Oui, et qui développe une double action, une action de solidarité, de soins communautaires, aussi en réaction, en tout cas c'est le discours qu'il porte face à l'inaction, à l'inactivité, à l'indifférence même des pouvoirs publics, en disant personne ne vient nous aider, on va se prendre en main nous-mêmes et donc prendre soin nous-mêmes de nos mourants, etc. Donc tout ce qui tourne autour du ce qu'on appelle en anglais le care, voilà, ça va de suivre et de tenir la main de quelqu'un mourant à l'hôpital, à faire les démarches d'assurance pour percevoir une allocation, à accompagner ou faire les courses de quelqu'un qui ne peut plus le faire. Et puis la deuxième dimension, c'est la dimension militante et politique. Se faire entendre, forcer les portes, imposer la voix du malade, réformateur social, mais aussi du malade expert. Lui seul connaît les effets secondaires des traitements qu'il prend, qu'est-ce qui est supportable ou pas dans un essai clinique, et imposer cette voix-là, parfois alors sur des modalités différentes. Vous parlez d'aide et ACT UP, c'était pas exactement les mêmes techniques pour imposer cette voix. Certains ont... Traditionnellement, on le sait, aide a été plus dans une logique de discussion et de négociation avec les autorités publiques, quand aide était plus dans une logique confrontationnelle, mais finalement un combat qui allait dans le même sens.
Avec ici ces journalistes qui observent ces mouvements, mais qui participent dans le même temps. C'est le cas à Libération.
Oui, parce que c'était aussi quelque chose pour nous, journalistes, qui était très, très impressionnant, c'est qu'on avait une grande proximité avec l'épidémie. C'est-à-dire, en tout cas au journal, il y a eu pas mal de journalistes qui sont morts du sida. Il y avait aussi un effet générationnel. C'était l'époque, les années 80, c'était les années où Libération, entre guillemets, triomphait. C'était un journal qui était extrêmement lu, etc. Les médecins qui s'en occupaient avaient à peu près aussi le même âge. Ça touchait des milieux qui lisaient beaucoup la presse. Donc il y avait quelque chose qui se passait et qui faisait que le cocktail était très productif.
Avec aide pour la négociation, ACT UP pour l'action. Allez-y.
Non, juste, c'est aussi compliqué parce que aide apparaît à un moment où il n'y a que des malades. au tout début des années 80, ACT UP apparaît à un moment, quelques années plus tard, où il y a les fameux séropositifs. C'est drôle de situation épouvantablement compliquée de personnes qui ont quelque chose, qui peuvent mourir, etc. Donc, il y a une sorte de duo très, très incroyable. Et c'est vrai qu'au final, entre Ed, qui était assez habile et assez puissant et plutôt dans le, pas dans le compromis, mais parce que quand même, hein, mais dans l'action, et ACT UP qui était dans la rupture, ils ont formé un couple extrêmement efficace.
Oui, on peut juste rappeler peut-être que un des cofondateurs de Head, Didier Lestrade, écrivait régulièrement des chroniques musicales dans Libération, entre autres.
Pas médical.
Musical.
Non, c'était musical. Dans les grandes figures, d'ailleurs, on parlait de la musique, mais on pourrait parler de la littérature, qu'il s'agisse de Freddie Mercury, le groupe Queen, qu'il s'agisse d'Hervé Guibert pour la littérature, et tant d'autres figures pour les États-Unis, Rock Hudson. Là aussi, nous avons la médiatisation qui prend part, mais malgré tout, est-ce que l'on peut dire, puisque nous réfléchissons à ces idées de controverse, que le sida a été un élément de division de la société? Vous voyez ce que je veux dire? Ça a un peu cloisonné des espaces comme ça, avec des regards qui s'opposaient les uns aux autres.
Moi, je crois qu'il y a eu un peu des deux, parce que là, vous parliez de, par exemple, le milieu artistique. Il y a eu des personnalités tout à fait exceptionnelles qui ont fait plein de choses, mais Lynn Renault, par exemple, elle a passé son temps à dire qu'elle se retrouvait très seule. Que tout le milieu, surtout le milieu des artistes, ne voulait pas. Les danseurs, c'était une catastrophe. S'ils reconnaissaient qu'ils étaient, reconnaissaient n'est pas le bon mot, s'ils disaient qu'ils étaient séropositifs, ça a été fini pour leur carrière. Regardez le cas de Thierry Leluron, hein, la polémique qu'il y a eu après sa mort, voilà. C'était, donc il y avait quelque chose de conflictuel, comme vous le disiez, mais c'était aussi le bon côté du conflit visible. Il était public. Il avait, voilà, quelque chose et ça a permis
De faire avancer les choses.
Mais
de manière difficile. Et puis, toujours autour des polémiques, il y a cette immense polémique du sang contaminé qui a quand même marqué l'actualité pendant des années et des années et qui a effaré, quand on lisait les comptes rendus, et qui a particulièrement divisé.
Oui, alors... C'est à la fois une spécificité française dans l'ampleur que ça a pris et dans le fait que des personnalités politiques au plus haut niveau ont été poursuivies en justice, qui ne se retrouvent pas dans d'autres pays. Et en même temps, pratiquement tous les pays occidentaux, à des chronologies différentes, ont connu des affaires du sang contaminé, à l'exception des États-Unis, pour des raisons un peu particulières, qui fait que la filière du sang aux États-Unis est essentiellement privée, et donc l'État s'est retrouvé un petit peu les mains plus propres, entre guillemets, parce que c'était des laboratoires privés. Et effectivement, c'est une affaire, c'est une épopée juridique qui a duré plus d'une dizaine d'années en France, entre le début des années 90. Là aussi, le rôle des journalistes, c'est l'événement du jeudi qui sort l'affaire Anne-Marie Casteret, en l'occurrence, hein, qui va démontrer, qui va sortir des notes montrant que en France, on avait au Centre national de transfusion sanguine la certitude dès 1900, du début 85, que l'ensemble des stocks de sang étaient contaminés et étaient à risque, et qu'on a tardé, pour des raisons qui sont d'ailleurs là aussi patriotiques et qui tiennent en partie à la question de la concurrence avec les États-Unis, à introduire l'obligation de dépistage des tests.
Oui, parce que ici, le sang contaminé, c'est d'un seul coup l'idée pour des gens qui se disent « Oh ben, ce sont ces groupes qui sont concernés, mais ah là, moi, je peux être contaminé parce que si j'ai un accident de voiture, on peut me donner du sang contaminé. » Et ici, c'est le politique qui surgit, mais la justice dans le même temps. Et c'est vrai que l'affaire du sang contaminé, enfin, Éric Favreau, la presse, ça a tellement, tellement été des grandes unes, le suivi étape par étape de cette affaire-là.
Oui, c'était très méchant. C'était une polémique et un scandale très méchant. Et puis surtout, ça a marqué aussi une rupture dans le regard vis-à-vis de la médecine, qui était, on parlait hier de la médecine triomphante. Maintenant, c'est devenu la médecine à scandale. Et c'est vrai qu'il y a eu des choses absolument inadmissibles qui se sont passées avec cette écoulée tous les produits sanguins. En même temps, c'est une histoire très très compliquée parce que elle a un peu fait écran à d'autres sujets. Elle a pris une importance démesurée. C'est vrai que les médias ont été lancés dans une folle concurrence entre elles. Et puis bon, en même temps, c'est souvent passé un petit peu en second main, mais il y avait une guerre ouverte des médias entre ceux qui soutenaient le Centre national de transfusion sanguine et Garetha, en particulier le journal Le Monde, qui était quand même le journal de référence et le plus solide, et d'autres journaux qui disaient mais non, il y a un vrai scandale. C'était un conflit méchant. Je trouve que rétrospectivement, la chose qui a été finalement très positive dans cette histoire du scandale, c'est que la justice s'est penchée et qu'on a une chronologie, un décryptage des décisions politiques qui a été extrêmement fine et qui a été, à mon avis, très utile pour la suite.
Oui, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein. Malgré tout, face à l'horreur de cette épidémie, la société s'est regardée, a évolué. Alors, le Pax, le mariage pour tous, ça c'est une voie, mais il n'y a pas que ça. Il y a le contrôle, par exemple, du sang. Et dans les avancées de la science, il y a de l'espoir. Alors, nous avons évoqué des annonces de médicaments qui étaient catastrophiques et d'ailleurs dénoncées très rapidement. Et puis, dans les années 1990, il y a tout ce qui est annoncé autour des antirétroviraux, l'idée que voilà, les choses avancent et progressent, mais là encore, Marion Abaléa, tout n'est pas évident.
Non, le premier antirétroviral, l'AZT, hein, qui est un peu le médicament phare de la fin des années 80, est mis sur le marché en 87. C'est en partie efficace, mais c'est aussi très toxique. Et de fait, ça n'améliore que peu, en fait. On s'en est rendu compte, une grande étude européenne l'a montré, le pronostic vital des malades. En revanche, la révolution, et c'est vraiment une révolution, elle intervient au milieu des années 90, 96, conférence de Vancouver, l'annonce de l'efficacité d'un cocktail d'antirétroviraux, ce qu'on appellera la fameuse trithérapie. L'idée qu'en prenant le virus par plusieurs fronts, on peut dire, avec des molécules qui ont des effets différents, on arrive non pas à vaincre le virus, non pas à guérir la maladie, mais à le neutraliser de manière, pour le coup, spectaculaire. C'est ce qu'on appellera l'effet Lazare chez certains patients qui se pensaient condamnés à court terme et qui, en quelques mois, retrouvent l'espoir et la perspective d'une vie, alors pas totalement normale parce que les effets secondaires sont extrêmement lourds dans ces premiers temps, mais en tout cas d'une vie à plusieurs années d'horizon. La rupture, elle est très forte quand même au milieu des années 90, en tout cas dans les pays du Nord où les antirétroviraux se diffusent relativement vite.
Oui, voilà, parce que le relativement est important ici. Il y a la diffusion du savoir, de la connaissance et puis les moyens financiers aussi.
Oui, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Moi, je me souviens très bien du congrès de Vancouver. C'était quelque chose d'absolument exceptionnel, quoi. Il y avait une ambiance absolument dingue. Le congrès de Vancouver, c'était ce grand... Quoi, tous les deux ans, il y avait un grand congrès autour du VIH où les associations, les malades étaient très, très présents. Et il se passait quelque chose... Quoi, j'ai rarement assisté à des scènes pareilles. C'était... un miracle, mais aussi la stupeur, l'inquiétude. Il y avait toute une série. Le milieu associatif était très désemparé parce que, il s'est dit, mais attendez, notre histoire, elle change. C'est-à-dire, on va peut-être guérir, on va vivre. Quelle mémoire garder de tout ça? Il y avait quelque chose de très étonnant, comme une sorte, non pas de nostalgie, mais comment être fidèle à toutes les personnes qui sont mortes, qui se sont battues, et nous qui allons vivre. Donc, il y avait quelque chose de très magnifique, et très vite, quand même, très vite, contrairement, c'est pour ça que je trouve, à ce qu'on disait, c'est que les malades du Nord se sont préoccupés des malades du Sud, se sont dit, voilà, nous on a les traitements, voilà, contrairement, voilà, qu'est-ce qu'on fait, hein? Parce que les malades sont au Sud et ils n'ont pas le traitement.
Avec toutes les difficultés, oh combien de choses que l'on pourrait dire sur l'aide apportée à l'Afrique notamment. Vous parliez de mémoire, Éric Favreau. Pour terminer, on peut citer un nom. Parce que Marion Abaléa, la fin de cette polémique entre les États-Unis et la France qui a découvert, ça nous permet quand même d'évoquer Françoise Barré-Sinoussi, qui est le grand nom aussi de cette histoire.
Oui, elle était au sein de l'équipe Montagnier une des principales actrices de la découverte de janvier 83 et elle est à fort juste titre récompensée avec Montagnier du prix Nobel en 2008 pour cette découverte. Et puis au-delà de ça, elle a incarné la continuité de ce combat tout au long de ces années essentiellement à l'Institut Pasteur où elle a raconté aussi beaucoup comment le laboratoire de recherche fondamentale de l'Institut était tout à côté de ce qui était encore l'hôpital qui existait à l'Institut Pasteur à l'époque, et de la proximité physique même avec les malades qui donnait un sentiment d'urgence à son travail. Françoise Barisine aussi, c'est aussi quelqu'un qui représente le lien qui a pu être tissé entre des scientifiques du plus haut niveau dans leur laboratoire et la réalité du monde, on peut dire. Quelqu'un qui est très engagé sur la lutte à l'échelle mondiale, sur l'accès des résultats de la science la plus pointue pour l'ensemble de ceux qui en ont besoin. Et donc, c'est aussi ce symbole d'une science qui ne s'enferme pas dans son laboratoire, mais qui est très consciente de son inscription dans le monde.
Merci Yvon à tous les deux. Deux regards portés sur cette épidémie sur le temps long, comme je disais, Éric Favreau, Nos années sida, 25 ans de guerres intimes. C'est publié à La Découverte. Et vous, Marion Abaléa, une histoire mondiale du sida, donc de 1981 à aujourd'hui, 2025. C'est publié aux éditions du CNRS. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Partenaires bien protégés, ces partenaires particuliers, le groupe met sur l'album les tubes qui protègent au moment du SIDAction. Voilà, partenaires bien protégés. Et voici maintenant dans le cours de l'histoire, le fil histoire, une chronique qu'on retrouve chaque semaine dans le cours de l'histoire ou en vous abonnant au podcast. Le fil Culture G, c'est sur les réseaux sociaux avec des décryptages en économie, en sciences, en philosophie. Ça se retrouve sur France Culture, en vidéo sur les réseaux sociaux de France Culture. Et aujourd'hui, dans le fil histoire, le médiéviste Emmanuel Arrio, auteur de Ségurant le chevalier au dragon, nous parle du dragon perdu.
Vous connaissez tous Lancelot et Perceval, mais savez-vous qui est Ségurant le chevalier au dragon? Au XIIIe siècle, il était la star de la table ronde. Mais après la Renaissance, on a perdu ses traces, jusqu'à nous. Alors qui est-il? En 2010, je consulte un manuscrit des prophéties de Merlin à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. C'est un recueil de prédictions attribuées à l'enchanteur breton. Et là, surprise. Au détour des pages, surgit l'histoire de Ségurant. Il se rend à la cour du roi Arthur pour participer à un tournoi. Mais alors qu'il est en train de vaincre tous les chevaliers de la table ronde, la fée Morgane intervient. Elle invoque un diable qui se présente sous la forme d'un immense dragon fantôme. Ségurant se lance à sa poursuite. Et le texte s'interrompt au milieu d'une phrase. Alors je me lance moi aussi dans une quête à travers l'Europe, comme Ségurant derrière son dragon, avec la folle idée de retrouver les autres parties de son histoire. Une vraie enquête policière à l'échelle d'un continent. Car les copistes médiévaux mêlaient les épisodes dans les manuscrits. Les fragments des aventures de Ségurant pouvaient se cacher n'importe où. Il fallait consulter des centaines et des centaines de manuscrits de la légende du roi Arthur. Au fil des années, les fragments affleurent dans les bibliothèques et les archives. Les morceaux s'enchaînent. Le dragon fuit et Ségurant continue sa poursuite. Tandis que Morgane persuade Arthur que Ségurant n'existe pas. Ironie cruelle, comme si le roman avait prévu sa propre disparition. Les années de recherche s'écoulent, divers obstacles me font presque abandonner. À Turin, plus de 30 000 livres ont brûlé dans l'incendie qui a ravagé la Bibliothèque nationale en 1904. Je me retrouve devant des étagères sans fin, remplies de cartons. Et dans chaque carton, un manuscrit calciné. Des blocs noirs friables. Mais grâce à une nouvelle technique, l'imagerie multispectrale, combinant la lumière infrarouge et l'ultraviolet, je parviens à récupérer d'autres fragments parmi les cendres. En tout, 10 ans de recherche. 28 manuscrits et fragments rassemblés. Un puzzle dispersé dans 7 pays. France, Italie, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, Belgique, États-Unis. Peu à peu, le roman perdu de la table ronde sort de l'oubli. Et avec lui, un héros unique du XIIIe siècle. Pas de dame à conquérir, juste un dragon fantôme. Et un mystère insoluble, celui du Graal. Un chevalier drôle et touchant, mangeant condice et poursuivant une illusion. Un Don Quichotte, plus de 3 siècles avant lui. Mais pourquoi avait-il disparu? Des incendies ont ravagé les bibliothèques. Des manuscrits jugés démodés ont été jetés. Et parfois, la censure s'en est mêlée. À la Renaissance, l'Église publie l'index des livres interdits. Parmi les œuvres condamnées se trouvent les prophéties de Merlin. Une condamnation qui a peut-être entraîné dans l'oubli aussi Ségurant. Et aujourd'hui, l'histoire de Ségurant peut enfin être lue après 7 siècles de disparition. elle entre enfin dans les programmes du collège, à côté de Lancelot et Divin. Et qui sait, peut-être bientôt sur Netflix ou en Lego. Ou dans Camelot, à côté de Perceval sortant un bocal d'anchois en guise de Graal, Séguran se demandera peut-être s'il ne valait pas mieux être oublié pour toujours.
Mais merci vivement Emmanuelle Arioli de nous avoir parlé de votre Séguran, le chevalier au dragon, un ouvrage vraiment remarquable. Et c'est dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet, avec à la technique Marie-Claire Oumabadi, émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet, Solène Roy, Chloé Rouillon et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire est à coupeter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.